À toutes et tous pour ce nouveau podcast donc sur le séminaire 13 sur Jupiter donc qui fait suite aux 12 séminaires qui ont commencé par l'ABC de l'astrologie qui est indispensable donc pour comprendre les séminaires de deuxième et troisième année. Donc ma maman est à côté, je la laisse vous dire bonjour.
Bonjour à tous et puis surtout bonjour pas bonjour à mon fils, mais bon, merci surtout à mon fils. Je suis trop heureuse de venir vous parler aujourd'hui de Jupiter.
Justement, sur j'ai terminé la lecture de ce séminaire ce matin. J'ai trouvé très intéressant, mais je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce nouveau séminaire ?
Jupiter, c'est pour moi la planète la plus difficile à interpréter en astrologie, parce que elle est source d'erreurs, de confusion. Une grande partie des astrologues traditionnels en font la planète de la chance. Et l'astrologie humaniste dit « Oh là là, c'est beaucoup plus complexe que ça », parce que certes, Jupiter, ça peut être de la chance, c'est de l'expansion, mais c'est en fait une planète, vous savez que c'est la plus grosse planète du système solaire, et le symbolisme est excellent, parce qu'en fait, Jupiter grossit tout. Le souci, c'est qu'il ne grossit pas que ce qui est bien, il grossit vraiment tout. Imaginez dans le jardin, si Jupiter, il met de l'engrais, alors s'il en met sur le massif de roses, c'est parfait parce qu'on aura des roses absolument magnifiques, mais il mettra aussi de l'engrais sur les mauvaises herbes du potager. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, je le répète, Jupiter est difficile à interpréter parce qu'il est très, très complexe. Imaginez, par exemple, qu'il soit conjoint dans un thème au soleil. Il va certes aider à réussir, mais seulement à condition que l'on ne gâche pas tous les avantages qu'on a par un orgueil qui serait un petit peu trop démesuré. Pareil, s'il est conjoint à la Lune, il va faciliter une aide à la vie sociale et une sécurisation, mais toujours à condition que l'on ne soit pas vaniteux ou orgueilleux. Donc, c'est comme ça pour toutes les planètes, son dialogue avec toutes les autres planètes. Et il faut rester très circonspect. Pour moi, je le répète, Jupiter, c'est la planète la plus difficile à interpréter dans un thème.
Merci maman, donc déjà pour ce premier regard par rapport à celui de l'astrologie traditionnelle. Alors il y a aussi justement celui de l'astrologie humaniste qu'on peut aborder à travers la persona. Donc la persona, elle aussi, on peut la prendre de différentes façons. Hein. La persona, c'était à l'époque où dans le milieu du théâtre, les acteurs en fait portaient un masque pour incarner effectivement un personnage vis-à-vis de leur auditoire, vis-à-vis de leur audience. Cette question du masque, pour moi, elle vient mettre en lumière en tout cas différentes choses. Il y a à la fois, je vais reprendre l'exemple du théâtre, c'est que finalement, ces acteurs, il y avait une certaine façon de se montrer aux autres, donc de se montrer finalement au monde social. Et quand on porte un masque, ben finalement, qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on montre de soi ? Donc ça m'interroge en tout cas beaucoup sur des notions de vérité, d'authenticité. Comment est-ce qu'on se montre aux autres ? Qu'est-ce qu'on montre aux autres ? Ça veut dire aussi que ce masque finalement vient quelque part se positionner en tant qu'interface entre soi et les autres. Mmh. Et c'est donc notre premier contact avec le monde social.
Oui.
Donc voilà, déjà, c'est ma première réflexion. Il y a aussi la persona, donc dans la façon dont Jung en parle. Hein. Donc Jung, je vous le rappelle, c'était ce fameux psychiatre suisse qui en parlait d'un costume social finalement qu'on revêt pour être accepté
Accepté.
par le clan auquel on appartient. Donc il y avait peut-être aussi cette façon de ben, qu'est-ce que je peux faire pour me faire accepter par le monde social? Tiens, peut-être que je vais porter un masque. C'est-à-dire que ce masque, finalement, il est porteur de ce que la société nous demande
D'être,
d'être.
tout à fait.
Et finalement, il y a. Alors, je me perds un petit peu, mais je trouve que c'est très bien. Je l'assume totalement, justement par rapport à Jupiter. Parce que pour moi, Jupiter, il y a la question, quand on porte un masque, c'est un petit peu de se perdre soi-même.
Oui.
Et je repense, alors je t'ai montré tout à l'heure, juste avant qu'on commence ce podcast, je t'ai dit, ben, moi, Jupiter, ça me fait penser à un film que je regardais quand j'étais ado. Donc c'était un film qui est sorti en 1994, qui s'appelait Le Masque, alors, The Mask en anglais, avec le grand acteur américain Jim Carrey et l'actrice Cameron Diaz. Alors je reprends un petit peu le synopsis du film. Donc dans ce scénario, Jim Carrey incarne un employé de banque. Alors c'est vraiment l'employé de banque assez servile, qui a pas du tout confiance en lui, voilà, qui ne sait absolument pas s'imposer, qui est une quiche
Maladroit,
sociale, qui est
oui.
maladroit, etc. Et un soir, alors qu'il tombe justement dans un fleuve, alors je me souviens plus exactement dans quelle ville se passe le film, il tombe sur un masque, et en fait, ce masque se révèle avoir des pouvoirs surnaturels. Et dès que Jim Carrey porte ce masque près de son visage, le masque s'approprie en fait sa tête, son visage, et là, Jim Carrey, d'un seul coup, quand il porte ce masque, il devient une personne complètement différente. Qui a, voilà, qui détonne d'assurance, qui sait exactement ce qu'il faut faire, quand il faut faire, et en fait qui désinhibe absolument toutes les peurs. Alors bon, après, il y a des effets spéciaux, parce que le réalisateur de mémoire était un grand fan de Tex Avery, donc on reconnaît voilà, des effets spéciaux à la Tex Avery dedans. Et en fait, dans le film, on se rend compte que ben, Jim Carrey utilise presque ce masque comme une sorte de prothèse, c'est-à-dire que finalement, ce masque va l'aider dans certaines circonstances et il le porte de plus en plus et au final, ben, à force de le porter de plus en plus, quelque part, il y a le risque qu'il ne devienne plus que le masque et
Oui.
qu'il du coup, il se dépersonnalise, il perde complètement sa propre identité. Et ça me fait vraiment penser un petit peu à
C'est
tout ça.
passionnant ce que tu dis et c'est vrai que c'est tout à fait en rapport avec Jupiter. Oui.
Alors,
Alors.
je rebondis peut-être rapidement puisque je parlais de la persona avec Jung. Et donc, effectivement, j'en parlais tout à l'heure comme d'un costume social. Donc, pour se composer, en quelque sorte, une sorte de personnage assez flatteur, hein, qui donne une apparence extérieure à son avantage. Mais quand le masque tombe, quand on se sépare, et là on en revient encore au film, voilà, quand on perd son emploi, son logement, on perd son rôle finalement dans le grand théâtre de la vie, et on se retrouve face à son inconscient et à sa nature profonde. Et je trouve que c'est pas du tout aussi facile que ça de se retrouver face à soi-même.
Oh non.
Et que parfois, ben, porter un masque, ça peut peut-être aider. Alors, on reverra peut-être dans la suite de ce podcast d'aborder cette question-là d'une autre manière.
Mais de toute
Et
façon, tu es passionnant comme d'habitude.
ouf, je le suis moins que toi. Et donc, toi, maman, en tant qu'astrologue, est-ce que tu as comment dire, une sorte de personnage, un modèle type qui viendrait justement représenter pour toi, Jupiter?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, je l'étudie dans le premier chapitre de ce séminaire. Ben, le jupitérien type, pour nous Français, c'est Louis XIV. Louis XIV, évidemment, qui, je vous signale quand même que lorsque j'ai voulu l'étudier dans le séminaire, je suis allée relire ce qu'a écrit l'historien Pierre Gaxotte de Louis XIV, et il disait que c'était un petit monsieur qui ne faisait qu'1,60 m, mais il portait des talons qui faisaient plus de 10 cm, et avec sa perruque qui en faisait autant, eh ben on avait l'impression d'avoir en face de soi un homme qui avait 1,80 m. Donc voilà le masque qu'il portait. Et c'est vraiment le jupitérien type, celui qui mangeait en public, qui se promenait dans les jardins de son palais en public, qui n'avait pas de vie privée. Il était tout le temps dans une véritable mise en scène, et on rejoint les acteurs dont tu parlais tout à l'heure. Ce que j'ai trouvé aussi amusant de Louis XIV, c'est que, bien entendu, il avait son château de Versailles, qui était un château à sa démesure, avec le palais lui-même, avec les jardins, avec les jeux d'eau, les feux d'artifice, la galerie des glaces. Enfin, vous connaissez bien tous le palais de Versailles. Mais j'ai découvert également qu'il s'était fait construire à Marly une résidence secondaire comme un soleil. Donc lui, il était là dans sa résidence secondaire. C'était le soleil, mais de chaque côté et qui entourait un bassin principal, il avait fait construire 12 pavillons qui étaient un petit peu plus petits pour toute sa cour, et il avait donné à chacun de ces pavillons un signe astrologique. J'ai trouvé ça, je ne le savais pas, mais j'ai trouvé ça très drôle.
C'est super intéressant, effectivement.
Oui. Donc, bah, évidemment, inutile de vous dire, il a un soleil qui trône en maison 10, un soleil vierge, avec un ascendant scorpion, Jupiter scorpion, Neptune scorpion. Bon, voilà, c'est pour moi, j'explique dans le séminaire en quoi c'est un jupitérien type. Mais,
D'accord.
quand je parle de Louis XIV, ce sont des souvenirs d'institutrice. Toi, tu as peut-être des souvenirs plus proches de nous pour parler d'un jupitérien type. Non, tu ne crois pas?
Peut-être, je ne sais pas. Alors oui, j'ai un modèle. Enfin, j'ai un modèle. On va dire, je pense à quelqu'un de contemporain. Juste avant de parler de lui, je reviens juste rapidement sur Louis XIV. Effectivement, ce que tu dis, ça me fait me replonger, en tout cas, dans mes cours d'histoire. Voilà, à l'école, et où on parlait effectivement de ce roi soleil.
Eh oui, bien
Et
sûr. Ah oui, bien sûr.
voilà.
J'aurais dû le dire aussi, bien sûr.
Et effectivement, le roi soleil, pour moi, ça m'évoque vraiment quelque chose, enfin quelqu'un notamment, ben, qui capte l'attention, qui fait que toute l'attention est portée sur lui.
Oui.
Alors je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter dans quelques instants. C'est finalement, est-ce que Jupiter, il capte toujours l'attention sur lui, ou est-ce que il y a une autre façon, peut-être qu'il y a des Jupiters aussi qui n'arrivent pas ou qui n'ont pas envie d'attirer la lumière, je sais pas. Je réfléchis en même temps que je parle.
Oui.
En tout cas, pour revenir à la question que tu me posais à l'instant sur un personnage contemporain, alors c'est bon, on va pas parler. Alors, si, on va parler un petit peu politique. En tout cas, on va parler d'un personnage politique contemporain, puisque ça fait quand même quelques années déjà que le mot de Jupiter revient assez régulièrement dans les discours des médias, en parlant effectivement d'Emmanuel Macron.
Oui,
Donc,
on avait dit qu'on prononcerait pas son nom, mais tant pis, bon,
bah,
c'est fait.
c'est fait, mais après, voilà, bon, on n'est pas du tout là pour parler des positions politiques ou des décisions politiques, c'est plus pour, voilà, par rapport à la façon dont les médias parlent de lui. Donc, sachant qu'en fait, en réalité, ce n'est pas les médias qui ont utilisé ce terme pour la première fois, puisqu'en cherchant un petit peu donc des informations sur Internet, j'ai lu qu'il y avait donc, en fait, Emmanuel Macron avait donc fait une interview, il avait accordé une interview au magazine Challenge, donc en 2016, donc c'était bien avant son élection à son premier quinquennat, et il avait déjà dit que. Il ne croyait pas, lui en tout cas, en un président normal. Alors, est-ce qu'il pensait à quelqu'un d'autre? Voilà. Là, pour le coup, pour le deuxième personnage, je ne donnerai pas le nom. Je pense que voilà, tout le monde saura de qui en tout cas Macron parlait à ce moment-là. Et il incar Emmanuel Macron venait justement parler d'une autre façon d'incarner en tout cas la fonction présidentielle, et que lui croyait davantage à un président jupitérien, avec justement ce que ce type de président venait incarner en termes de valeurs. Et il parlait voilà de différents personnages de l'histoire de France, pour venir illustrer en tout cas ses propos. Je trouve qu'il y avait aussi deux choses intéressantes par rapport au parti politique La République En Marche. Donc c'est justement un parti politique qui s'est structuré, on va dire, en tout cas de façon assez jupitérienne, hein, puisque par rapport à la façon dont les autres d'autres partis politiques plus traditionnels ont pu se structurer, La République En Marche, finalement, s'est structurée autour d'Emmanuel Macron, autour de personnes qui ont considéré, voilà, qui l'ont vu comme un chef. C'est-à-dire que ce mouvement s'est formé autour d'un chef ou de quelqu'un qui a fait fonction de chef pour certaines personnes. Donc, et puis il y avait, comment dire, je sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais
Oui, c'est vrai, oui.
et je t'en parlais effectivement tout à l'heure, maman, le nom du parti politique, République En Marche, on a quand même les initiales du leader, EM, Emmanuel Macron. Alors, est-ce que c'était fait exprès ou pas? Je sais pas, mais je trouve que ça fait quand
Sûrement,
même,
sûrement,
voilà, je trouve que
oui.
ça fait quand même très jupitérien. Et après, il y avait toute on va dire, l'analogie avec la mythologie.
Et oui, Zeus et Saturne, évidemment,
C'est
oui.
ça, puisque effectivement, Emmanuel Macron est venu quand même. Voilà, il a expulsé son prédécesseur, en tout cas du haut de l'Olympe, en le jetant dans les profondeurs du monde souterrain. Ouais, il a précipité donc la chute de son père un petit peu en politique, sans avoir conquis son trône à ce moment-là, hein, puisque je rappelle, c'était avant son premier mandat. Mais
Oui,
voilà.
exactement ce qu'a fait Zeus avec Chronos.
C'est ça. Donc,
D'accord, ouais.
on a vraiment un personnage qui me semble assez jupitérien. Et justement, quand je parlais tout à l'heure de ce double rapport à la lumière, cette réflexion que j'avais, est-ce qu'on l'attire, on l'attire pas, etc., ça me fait penser à la position de Jupiter dans un thème qui peut être rétrograde ou direct.
Oui.
Et justement, alors j'ai repris le thème natal donc d'Emmanuel Macron là que j'ai sous les yeux, et donc il a la position en tout cas de son Jupiter. Il a un Jupiter rétrograde à 1 degré Cancer. Alors c'est toujours un petit peu embêtant personnellement sur les orbes de 1 ou 2 degrés avant ou après une cupide de maison. Voilà, on peut toujours considérer qu'il y a l'énergie des deux signes. Donc ça fait que là, Jupiter est donc à 1 degré Cancer. C'est un Jupiter qui est à la fois imprégné de l'énergie Cancer, mais qui est aussi quand même peut-être imprégné de l'énergie Gémeaux.
Gémeaux.
Et justement, je trouve qu'un Jupiter en Gémeaux, voilà, qu'on aime ou pas le personnage, le fait est que c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait charmer son auditoire, qui sait se présenter. Qui sait voilà communiquer. Alors bon, il a en même temps aussi une double conjonction Soleil-Mercure à 29 et 30 degrés Sagittaire juste en face. Donc il y a justement voilà une façon de communiquer assez sagittarienne et assez avec le Capricorne aussi. Je trouve que c'est voilà ça correspond assez. Qu'est-ce que tu peux nous dire peut-être, maman, de cette position de Jupiter rétro ou direct?
Oui, ben, j'y ai consacré beaucoup de pages dans le séminaire, donc c'est difficile de résumer là, mais c'est très très intéressant. Je signale quand même pour nos auditeurs que Jean-Noël et moi, nous avons tous les deux un Jupiter rétrograde. Donc
Effectivement.
c'est assez particulier, mais c'est la rétrogradation de Jupiter, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Ça m'est difficile là, de résumer en 2 minutes ce que j'ai écrit en 10 pages.
Oui, alors ma mère précise 2 minutes parce que là, on a le compteur en même temps
On
qui
a,
tourne.
on est à 19 minutes, donc c'est bientôt la fin.
Ouais, mais là, je
Et
pense
j'aurais
que...
voulu ajouter encore d'autres choses, notamment, puisque là, on a quand même beaucoup parlé de politique, je me suis aussi intéressée dans ce séminaire au pape, figurez-vous. Là, on passe de la politique à la religion. Et je me suis dit, mais Jupiter, chez les papes, est-ce que c'est une planète importante? Et oui, la plupart ont un lien entre Jupiter et Neptune. Alors, j'ai étudié dans le séminaire trois thèmes. Le thème de Benoît XVI, de Jean-Paul II et de Jean XXIII, ils ont tous un lien très étroit. Il y en a deux sur les trois qui ont un Jupiter conjoint Neptune en maison 10, avec Jupiter comme planète dominante. Et Benoît XVI, lui, a un Jupiter qui n'est pas conjoint, qui n'a aucun lien avec Neptune, mais il est en maison 1, en poisson, sur un ascendant poisson. Donc, il n'y a pas qu'en politique, dans la religion aussi, ce Jupiter, surtout en lien avec Neptune, il est très, très important.
Alors,
Voilà, on est à 20 minutes, hein?
oui, mais j'ai de toute façon, on a encore deux, trois petites choses à préciser. Donc, comme j'ai quand même un côté un peu uranien, voilà, je vais faire exploser le cadre des 20 minutes.
Tant
Je
pis.
l'assume, j'en prends la responsabilité, ça sera pas ma mère. Donc, voilà, on parlait justement, alors je sais plus si c'était ce matin ou en début d'après-midi, de Greta Thunberg. Voilà, je pense que tout le monde la connaît, hein, cette jeune activiste suédoise. Voilà, je me suis posé, enfin, avec maman, on s'est posé la question et on a eu la curiosité, en tout cas, d'aller voir son thème. On l'a aussi sous les yeux et on a vu effectivement, alors, le thème de Greta Thunberg, on n'a pas son heure de naissance. Donc effectivement, on n'a pas les maisons. Il nous manque quelques éléments, mais en tout cas, voilà, on va juste se concentrer sur son Jupiter. Elle a un Jupiter rétrograde également, en Lion.
En Lyon, oui.
Et je trouve que c'est justement intéressant parce que ben, là, on a aussi un personnage quand même qui est devenu extrêmement populaire. Alors, justement, je pense pas que c'était pas du tout son intention au départ. Alors, je t'ai appris aussi que Greta
Oui,
Thunberg était
était
autiste.
autiste, oui, ça je ne le savais pas,
Voilà,
oui.
donc ça c'est quand même un premier point parce qu'elle a une façon effectivement de communiquer qui peut paraître atypique, mais qui est expliquée par son autisme. Mais voilà, l'histoire quand même de Greta, c'est que elle avait alors, pas plus ou moins manifesté ou mais en tout cas elle s'était présentée devant le Parlement suédois. Ça c'était
Elle avait 15 ans, je
elle
crois.
avait
Oui.
15 ans, voilà, tout à fait. Et puis ensuite, il y avait cette grève scolaire pour le climat le vendredi et qui s'est propagée ensuite dans beaucoup de pays. Et je pense que finalement, c'était pas du tout intentionnel, c'était pas du tout prévu. Et je trouve que voilà, c'est devenu intéressant. Et puis, il y a d'autres
En plus,
configurations
oui, elle
astrologiques
a
de
un
son thème.
Jupiter qui est trigone à Pluton. C'est quand même très très fort, mais carré à Mars. Donc, il y a quand même, c'est un Jupiter très réactif. Opposé, bon, c'est opposé large à Uranus, mais du fait que Mars est planète focus d'un petit carré, on peut considérer l'opposition Jupiter-Uranus. Donc, un thème aussi très intéressant que j'étudie aussi dans le séminaire. Donc, ben voilà, moi je vais terminer en vous disant que ce séminaire numéro 13, me fait sourire parce que je ne l'ai pas recherché, mais j'ai compté le nombre de thèmes que j'avais étudiés. Eh bien, il y a 13, j'ai étudié 13 thèmes dans ce séminaire.
C'est intéressant,
Lesquels?
13 thèmes. Et
Oui, 13 thèmes. Je suis tombée dessus comme ça. Bon, donc j'ai étudié bien sûr le thème de Louis XIV, j'ai étudié le thème de Greta Thunberg, j'ai étudié le thème de Lise Green et d'Alice Bailey. Elles ont toutes les deux un Jupiter très intéressant. Quand je dis que j'ai étudié les thèmes, je veux dire que j'ai étudié le Jupiter dans ces thèmes-là. Et puis j'ai pris aussi le thème de Jacques-Yves Cousteau, qui est un Jupiter très particulier, de Luchino Visconti, et puis de plein d'autres que vous découvrirez avec le séminaire. Voilà.
Eh bien, merci maman en tout cas pour cette belle présentation de ce nouveau séminaire 13 sur
merci
Jupiter.
Merci à toi, vraiment. Voilà.
Et bien, merci à toutes et tous de nous avoir à nouveau écoutés, de nous supporter. Voilà, à nouveau, on est à 24 minutes. Donc, on va dire qu'on est dans la continuité des deux derniers podcasts qu'on a fait. Voilà. J'avais fait un questionnaire pour demander sur la durée et on vous a réglé sur 20 minutes. Ce sera peut-être pour le prochain, ce sera pas pour celui-là.
Voilà, au revoir à tous et merci encore de nous écouter.
Au revoir tout le monde.